Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Louis, Nova.
Moi, je me vois vraiment comme une espèce de truc en physique-chimie sur les révélateurs, le truc qu'on met un petit, je sais plus comment ça s'appelle, ou les précipités, où on met une petite barrette et tout à coup, ça révèle quelque chose. On voit ce que ça donne. Et moi, je me vois comme ça, comme si on me plongeait, mon corps, on me plongeait dans un milieu donné. Et puis tout à coup, ça crée des réactions. Ça crée des réactions chimiques que normalement, qui restent cachées. Ces représentants de sphères culturelles ou politiques, comment on les amène à ce que la parole, elle soit dite, elle soit verbalisée, bah, pour qu'on puisse la combattre après. Parce que moi, vraiment, ce qui m'intéresse dans tout, c'est que les choses soient dites, ce qui, pour moi, est mon activité d'humaine dans ce monde. Hein.
Il est rare que l'on connaisse le nom des conseillers de Paris à l'échelle nationale, mais celui d'Alice Coffin, il est cité jusque dans le New York Times. Journaliste média, pendant longtemps à 20 minutes où j'ai fait sa connaissance, activiste féministe, militante de l'association La Barbe, qui a pour objectif de montrer l'entre-soi du patriarcat en faisant intrusion lors d'événements ne comptant que des hommes, élue depuis cet été Europe Écologie Les Verts et désormais autrice, avec son nouvel essai « Le génie lesbien », Alice Coffin est devenue en quelques mois un symbole. Celui d'un féminisme radical à abattre, pour les conservateurs, celui d'un espoir flamboyant, pour les nouvelles générations féministes. Cette dichotomie, elle est visiblement à l'œuvre le 24 juillet dernier, en plein conseil municipal à Paris. L'adjoint à la culture, Christophe Girard, vient de démissionner à la suite de la médiatisation de ses liens avec Gabriel Matzneff, écrivain pédophile revendiqué. Et soudain, à la demande du préfet de Paris, les élus se dressent pour applaudir Girard et lui rendre hommage. Alice Coffin, qui a œuvré pour cette démission, comme d'autres élus Europe Écologie Les Verts, ose prendre la parole et dénoncer cette standing ovation. Et comme Adèle Haenel s'insurgeant contre la récompense remise à Polanski à la dernière cérémonie des Césars, Alice Coffin crie « la honte ». Et si c'était là le germe d'une nouvelle parole politique ? Je suis Charlotte Pudlowski et vous écoutez Fracas. Quand tu prends la parole au Conseil de Paris, au moment où Christophe Girard est applaudi après sa démission, et que tu cries la honte en référence aussi aux mots prononcés par Adèle Haenel au moment des Césars, comment ça arrive, comment ça devient ?
Je ne peux pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est... Bon, le moment qui a surgi de la standing ovation de Christophe Girard, c'est quand même... Moi, je crois que c'est un des moments les publics que j'ai vécu les plus violents qu'ils soient. Et ma réaction, je pense que ça s'est lié à... Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a vraiment le choc, l'émotion qui fait que je ne peux pas faire autrement. Et les mots, c'est évidemment absolument pas préparé, parce que vraiment, j'aurais jamais pu prévoir qu'ils aillent jusqu'à l'applaudir à l'initiative quand même du préfet l'Allemand, qui est le préfet de police de Paris, connu pour ses propos extrêmement durs et sa ligne sur les questions de maintien de l'ordre, de répression des manifestations, particulièrement compliquées. Donc c'est un groupe censément de gauche, hein, en plus, qui se lève. Hein, je veux dire, c'est les socialistes, c'est Génération, c'est les communistes. C'est d'une violence terrible. Donc là, ça me vient très spontanément. Pour moi, je ne peux pas faire autrement que... j'ai cru vraiment que j'allais être emportée, parce que j'avais vraiment les larmes aux yeux. Et à un moment, je me baisse sur mon pupitre, tellement c'était compliqué. C'était comme un... Comme s'ils avaient essayé de me mettre KO là-dessus. Et je pense qu'il y avait de ça. C'est-à-dire, c'était vraiment, de leur part, dire « Ah, ok. Ah, vous t'as voulu résister. Ah, vous avez voulu faire ça. Vous avez voulu évincer l'un des nôtres. Et ben voilà le retour. On va vous répéter, c'est qui le patron? C'est qui le plus fort? Pareil, c'était pas réfléchi de dire la honte comme ça. Et effectivement, c'est le mot d'Adèle Haenel, mais parce que finalement, les situations, elles sont très similaires. Et qu'en plus, il est question, quand elle part, elle crie « Vive la pédophilie !» Donc jusqu'au sujet, il est très similaire, mais aussi dans les formes que ça prend. Quand il y a cette cérémonie des Césars, c'est vraiment... Ok, il y a eu tout ça, on a entendu, il y a eu Adèle Haenel chez Mediapart, il y a eu tout ce mouvement qui est en train de monter. Eh ben non, nous on vous redit en fait, qu'est-ce qui est aux commandes? Eh ben on lui donne le César, non seulement on lui donne, et en plus il y en a pour applaudir dans la salle. Donc on est sur ce même, c'est des rapports de force en fait, hein, on est sur une même réaffirmation. Et que c'est pour ça que je le prends comme un uppercut en fait. Et que... Mais après il y a la question de, je pense que si néanmoins je réagis et que j'ai pas peur de réagir, c'est-à-dire que j'aurais pu être restée prostrée dans mon coin. Pourtant, je dis quelque chose, je crie quelque chose. Et ça, ça vient vraiment de l'activisme, en fait. Ça vient vraiment de l'habitude des assemblées et d'être capable, parce que je suis sûre que, notamment au groupe des Verts, il y avait d'autres gens, et je le sais, qui étaient tout aussi absolument scandalisés, mais qui n'ont pas nécessairement avoir le réflexe de le faire. Et c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui permet à quelqu'un, dans un moment donné, d'avoir la réaction, de prendre la parole. Et il y a eu récemment, sur le plateau de Quotidien, chez Yann Barthès, ce moment où Nicolas Sarkozy tient des propos épouvantablement racistes, comparant, faisant tout un lien entre les mots singe, nègre, noir, et tient des propos où ça ne réagit pas. Ça, je trouve ça très intéressant parce que c'est compliqué de dire... c'est choquant hein, qu'ils ne réagissent pas. Mais ce que je veux dire, c'est compliqué d'aller viser individuellement des gens en disant « qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire que tu t'en fichais ?» Non, ce n'est pas nécessairement ça. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi est-ce que les gens, à ce moment qu'on a placé autour de ce plateau, ne sont pas en condition de réagir. Non pas l'historique, la pensée, les outils nécessaires pour immédiatement réagir. Et encore une fois, je ne dis pas, c'est très compliqué. Moi, il m'arrivera certainement de ne pas réagir au moment où je devrais réagir. Ça va vite, ces choses-là, donc c'est compliqué. Mais ce qu'on peut faire pour l'éviter, en revanche, c'est de placer en situation autour d'une table ou d'une assemblée des personnes qui ont la pensée, les pratiques nécessaires pour la réaction. Donc, ce que ça posait pour moi sur le problème de quotidien, c'était « Ah, ben peut-être dans l'équipe, il n'y a pas assez de personnes qui aient ce passé-là, cette pratique-là, et c'est problématique. » La réaction, elle vient, je pense, moi, elle me vient aussi d'années et d'années d'action de la barbe qui consiste à aller s'infiltrer et envahir des scènes où ne sont présents que des hommes, ou presque, et de prendre la parole publiquement et d'apprendre aussi à réagir à ces questions-là, mais c'est tout un apprentissage, hein, de toute façon.
Parce qu'il y a un moment de sidération, en fait, sur le plateau de Quotidien, comme je pense au Conseil de Paris, pour certains élus verts qui étaient scandalisés et qui n'ont pas pu réagir, puisque tu dis que c'est un apprentissage. Comment on apprend à faire que cette sidération ne nous coupe pas la parole?
Ma meilleure école pour ça, ça a été l'activisme. C'est réellement une pratique d'intervention dans des lieux publics et d'intervention en étant préparé à devoir agir. Moi, là, j'étais pas préparée à devoir agir. Sur le plateau de Quotidien, peut-être qu'ils étaient pas en état de veille, de vigilance. En revanche, quand je fais une action, je suis en complet état de vigilance, c'est-à-dire que mes antennes sont très... Enfin, je suis très attentive à tout ce qui va être dit pendant cette action par les gens qu'on cible, puisque ça fait partie de l'action même, de voir un peu quelles sont leurs réactions, de s'en souvenir et d'être en état de corps et de pensée complètement politique, en fait. L'habitude d'avoir vécu des moments comme cela, où tout mon cerveau est concentré sur qu'est-ce qu'ils vont dire, comment on réagit, faisons attention pendant le temps que dure l'action. C'est ça, ça laisse des traces. Et ça fait que quand ça se reproduit, même si on n'est pas dans la situation, on se dirait tiens, il va se passer ça, parce qu'encore une fois, je ne savais pas qu'il allait se passer ça, on est mieux préparé. Et après, je pense qu'on nous l'a... Le problème, c'est qu'en face, on n'est pas du tout outillé pour faire ça. Parce que moi, ce que je constate en politique, c'est que c'est quand même très mal vu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment immédiatement disqualifié d'avoir ce genre de réaction, mais pas seulement sur la séquence de la standing ovation. Je vais pas passer tous mes conseils de Paris à crier la honte, j'espère. Et c'est pas... De toute façon, c'est pas un mécanisme, une stratégie. Encore une fois, c'était quelque chose de très spontané. En revanche, moi, je suis très, très alarmée par les réactions dans les réunions politiques. Et dans les réunions politiques très officielles, quand, moi, je manifeste un désaccord ou un désarroi. Et ça s'est passé, j'en ai pas fait encore énormément, mais je suis vraiment très, très accablée sur la façon dont la parole politique peut être dite et reçue. Donc, ça peut prendre plusieurs formes où on essaye vraiment de l'étouffer, de dire que, en gros, il faudrait ne rien dire, mais pas au sens cacher des choses, mais au sens où c'est l'essence même, j'ai l'impression, du dialogue politique, de surtout ne pas aborder de sujet. Et par exemple, sur... au sujet de Christophe Girard, moi, avant le Conseil de Paris, où il y a eu la Standing Ovation, tout ça, il y avait une réunion de la Commission Culture qui se réunit 2 jours avant pour préparer le Conseil de Paris, et dans laquelle je siège, dans laquelle siégeait aussi Christophe Girard. Donc, c'était une assemblée où, je ne sais pas, il y avait une vingtaine quand même d'élus qui représentent cette commission. Et les gens, ils parlent. Enfin, l'actu Christophe Girard, elle était dedans, on était déjà là-dedans. Tout le monde parle pendant une heure de plein de sujets, un peu caisse d'enregistrement, vraiment, où il n'y a pas vraiment de discours, on discute des subventions. Et à la fin, moi, je dis, bon, bah, excusez-moi, mais je crois quand même que c'est important de noter que dans 2 jours, il y a cette manifestation. Et je dis, bah, limite, je suis désolée, parce que Christophe Girard était là. Et là encore, je ne veux pas forcément viser personnellement. Je dis, bon, bah, écoutez, voilà, mais il se trouve que c'est contre l'adjoint à la culture. Et puis, il y a eu un courrier signé par les élus écologistes qui demande le départ de l'adjoint à la culture. Et là... mais ils m'ont hurlé dessus, quoi. Ils ont dit « c'est dégueulasse ». Et d'ailleurs, la personne qui a dit « c'est dégueulasse », c'est Pierre Edenbaum, l'adjoint à la Seine, qui après s'est retrouvé plus récemment accusé d'harcèlement. Voilà. Bon. Ça raconte toujours des choses, hein, les résistances. Mais ce n'était pas du tout que lui. Il y a eu un ensemble dans ce qu'il me disait, que c'était vraiment inqualifiable, que ça ne se faisait pas du tout de dire ça. Ils m'ont dit « ça n'est pas le lieu, vous faites de l'activisme, ce n'est pas du tout une parole d'élu ». Et moi, je leur ai vraiment répondu « mais je ne comprends pas, en fait ». Donc, si la commission culture n'est pas le lieu pour discuter des questions culturelles et liées à l'adjoint à la culture de Paris, là, je ne comprends pas où est le lieu de la parole politique dans ce cas-là. Ça m'a beaucoup frappé qu'on me dise cette parole-là, elle n'a pas vocation à être présente dans cette réunion-là. Donc ça, c'est un mode de réponse à une parole qui essaye de faire sens, où je suis en train de leur dire quelque chose, en fait. Je leur dis, je leur donne des informations, j'essaie toujours de donner toujours des infos, que ma parole ne soit pas vide, je leur donne des précisions sur ce qui se passe, et puis je donne, effectivement, j'exprime une vision politique. Réaction, le déni, la disqualification, tu n'as pas le droit de dire ça ici. Un autre type de réaction que j'ai noté, je ne sais pas ce qui est le pire, j'ai eu une autre réunion aussi avec les représentantes des questions d'égalité femmes-hommes. Moi, je suis élue conseillère de Paris, mais je suis aussi déléguée à l'égalité femmes-hommes dans le 12e arrondissement. J'avais demandé à ce que ma délégation s'appelle lutte contre le patriarcat, mais ça ne m'a pas été accordé, ce que je regrette, parce que ça a eu le mérite de vraiment poser les choses. Bon, il y a une réunion sur ces questions de féministes, d'égalité femmes-hommes à la mairie de Paris. Pareil, expression, on expose un peu des choses et d'autres. Et ça se passait à la rentrée, septembre 2020, après un été qui, quand même, à la mairie de Paris, a été très particulier sur les questions de violences sexistes ou pédocriminelles, sur ces questions-là. Et puis, qui a été très particulier dans la façon dont moi, j'ai été traitée, sur les attaques que j'ai. Donc, je le dis. Je dis, bah écoutez, pardon, mais moi, je vais quand même en revenir. Il y a quand même une actualité, il faut qu'on en parle. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont ça s'est passé. Ça ne peut pas se reproduire comme ça. On a besoin de paroles plus fortes sur ce sujet-là. Ça ne peut pas être que les élus écologistes qui portent ces propos-là. Je dis tout ça, des trucs assez forts, mais en prenant des précautions aussi. Enfin, en disant vraiment, mais c'est pour l'avenir, ayons un échange. Et là, bah, personne ne dit rien. Ce n'est pas un sujet, il y a une vague réponse comme ça en disant oui. Les gens, c'est comme si ça n'existait pas. Et ça, je ne comprends pas, quoi. C'est-à-dire que... Et là, il n'y a eu personne pour rebondir. La façon dont ça a pu se passer, je pense, avec Christophe Girard, c'était très important qu'on soit plusieurs à parler. Donc il y avait moi, il y avait Raphaël Rémy-Leleu, il y avait d'autres. Parce que sinon, en face, leur stratégie, c'est... Le silence est terriblement efficace, en fait. C'est comme si ça n'avait pas... Ok, j'ai dit un truc, mais en fait, personne ne m'a entendu. C'est... bon. Et c'est vraiment des méthodes pour faire... vraiment taire. Et je pense qu'on a là vraiment 3 exemples de façon dont on essaye d'étouffer les choses ou d'étouffer une parole. C'est en gros la liesse avec la Standing Ovation, un peu très honteuse après de leur part, mais l'exclamation, la foule en fait, qui applaudit comme ça, qui fait taire, la colère et les attaques et la disqualification, ou le silence. Mais de toute façon, en politique, moi, depuis que je suis rentrée en politique, je suis complètement abasourdie par l'usage de la parole. Qu'est-ce qui est fait aux mots dans ce milieu-là, quoi. Et comment on les vide de sens systématiquement, comment ces gens-là... Et ça se voit aussi dans les conversations privées. C'est-à-dire que je suis très surprise quand je parle à des politiques ou autres, mais on dirait que... Enfin, ils disent rien, quoi. C'est comme s'ils étaient terrifiés de parler, mais ce que je commence à comprendre, hein, parce que Moi, je pense que je suis en plus hyper, mais réellement naïve et ignorante de ces questions-là. Et peut-être que je vais m'en mordre les doigts, de trucs que je dis, que je comprends pas, parce que réellement, je n'ai pas du tout les mécanismes. Et ce que je vois, ce que je commence à voir aussi beaucoup, une des raisons pour lesquelles je voulais venir en politique, c'était entre autres parce que moi, mon activité, pendant longtemps, ça a été d'être journaliste média, d'observer comment les journalistes se comportent. Et il y a un champ que j'ai toujours voulu explorer, c'est le journalisme politique, qui m'accable, en fait, moi, dans la façon dont c'est pratiqué. Et je vois, je crois que je comprends aussi pourquoi il y a une espèce de terreur chez les politiques quand je vois comment le journalisme politique est pratiqué, tout l'usage du « off », qui dit beaucoup aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, le « off » sur une parole ? Même dans les mots, ça veut dire quoi de mettre en « off » une parole ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire sur les mots qu'on dit si, en fait, elle est littéralement coupée, éteinte, « off » ? Ça induit des comportements pas possibles, en fait, dans la façon dont on se parle, même entre politiques, où je vois bien qu'il y a une espèce de précaution. Et pareil, quand on dit la langue de bois, mais ça vient d'où, en fait ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette crainte-là, cette terreur-là de dire des choses qui aient du sens ? Mais c'est quand même très compliqué. Les mécanismes qui sont en place sur le journalisme politique ne me paraissent vraiment pas adéquats pour faire émerger justement une parole intéressante. Et de manière générale, il y a ce vide du sens. Et je crois qu'un des moments qui me fait beaucoup rire et qui est un souvenir aussi très amoureux, parce que j'étais avec Yuri, avec qui je partage ma vie, et ça nous a beaucoup marqué comme moment et c'est resté une phrase très importante dans nos vies. On regardait une soirée électorale et sur le plateau, il y avait Bruno Le Maire, qui est désormais qui est ministre dans le gouvernement Macron, et il y avait Cécile Duflot, donc qui était chez Les Verts à ce moment-là, je ne sais plus où. Donc il y avait Bruno Le Maire et Cécile Duflot sur un plateau, et ça parle, c'est la soirée électorale, Bruno Le Maire fait tout un discours, et à un moment, Cécile Duflot, elle regarde comme ça, elle lui dit « Mais dites quelque chose, Bruno Le Maire, mais dites quelque chose !» Et cette phrase, je sais que ma compagne Yuri a éclaté de rire, et depuis, très souvent dans la vie, quand quelqu'un, on dit « Mais dites quelque chose, Bruno Le Maire. Mais dites quelque chose, Bruno Le Maire. » Le pauvre Bruno Le Maire, bon, on se retrouve embarqué là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était très juste, parce que c'est pas juste lui. Mais c'était tellement juste qu'elle a dit, c'était du flow, c'était « Mais dites quelque chose, quoi. » Mais on comprend pas, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce flow-là ? Ils ne disent rien. C'est la parole complètement creuse qui se répète, qui s'entretient. Et c'est quand même extrêmement toxique d'avoir cette parole-là dans l'espace public qui n'est là pour surtout ne rien dire.
Dans le livre, d'ailleurs, sur l'impossibilité de parler et le fait que toi, ta parole est très en décalage par rapport à ce qu'on attend dans un certain nombre de lieux politiques, par exemple, tu racontes que t'es allée à l'Élysée avec un certain nombre de délégations LGBT pour parler des questions de PMA, que t'as essayé de dire des vraies choses à Emmanuel Macron et qui t'a dit quelque chose comme « c'est pas le cadre, vous respectez pas le cadre ».
Ouais, ça s'est passé même en amont. Il y avait cette réunion sur la PMA avec les représentants et tantes, mais pas beaucoup, surtout représentants des associations LGBT. Mais vraiment, on a dit il faut vraiment avoir une parole très forte, c'est pas possible. On était en 2018, on a dit, mais ça fait 6 ans qu'ils nous racontent absolument n'importe quoi sur la PMA, que tous les ans on a des déclarations, ça sera voté avant la fin de l'année, c'est du grand n'importe quoi. On va pas reproduire sous Macron ce qui s'est passé sous Hollande. Et déjà les assos, mais vraiment, il y avait des membres, je comprends pas, ils disaient, non mais on peut pas parler comme ça au président de la République, non mais attention, c'est pas possible de dire ça, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Enfin, je veux dire... Avoir une parole politique, c'est pas être irrespectueuse. Bon, on peut discuter quand même. Enfin, il est élu, c'est normal qu'il nous explique, qu'il rende des comptes et surtout qu'il nous balade pas. Or, c'est évidemment ce qui s'est passé pendant la réunion. Et en face, ce qui est toujours très déstabilisant, c'est que moi, j'ai essayé de dire des choses à plusieurs fois, de reprendre la parole pour dire « Non, mais là, on veut des réponses. Là, ça va pas du tout. Donnez-nous un calendrier, donnez-nous des réponses. » Et en face, mais j'avais des assos même qui disaient « Non, mais nous, monsieur le président, on partage pas du tout. » Et qui me faisaient des signes, limite, pour me calmer. Alors que j'étais pas spécialement... Je hurlais pas, quoi. Juste, je disais des choses. Et d'ailleurs, il y a un moment où c'est plus possible de parler. C'est là où c'est compliqué, où l'échange n'est pas possible, puisque effectivement Emmanuel Macron... À cette opposition-là, lui, il m'a dit « Vous ne respectez pas le cadre de la République. » Et il a sorti ce qu'on me sort souvent « Vous êtes des procureurs. » Et c'est fou, ça. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire de dire ça ? Vous êtes des procureurs. C'est comme si on ne pouvait pas discuter. Il y a vraiment une incapacité de l'échange et de la mise en responsabilité.
Et qu'est-ce qui se joue quand Emmanuel Macron dit « C'est pas le cadre pour parler de ça ». Qu'est-ce que ça signifie pour toi quand on te dit ça ?
Je pense évidemment que c'est un prétexte, hein. C'est une manière de ne pas vouloir affronter une discussion, parce qu'en général, quand on dit ça, c'est qu'il n'y a pas tellement d'autres lieux, de toute façon, où avoir ces conversations-là. Donc c'est une manière d'évincer le sujet, mais plus profondément, je pense que c'est une question de définition de territoire aussi et de lutte justement sur qu'est-ce qui peut être dit, où est-ce que la parole peut s'exprimer de manière libre ou pas, et qui a le droit de le faire, ce qui est un combat immense. Et puis derrière, ça veut dire que, je sais pas, sans doute ces gens, ils ont des choses à... Ils sont pas capables de répondre, en fait, souvent, ou ils ont pas... Je pense la force d'avoir une parole qui peut s'exprimer, c'est d'avoir aucun... Je vais dire, moi, j'ai pas de dossier caché, j'ai pas de choses qui peuvent mettre... Tellement de choses qui peuvent mettre... On peut rien m'enlever, je veux dire, en politique, je brigue pas des titres spécifiques, ou il y a... Donc c'est pas compliqué pour moi d'avoir une prise de risque, qui est toujours une parole lâchée, hein, c'est toujours, on s'expose, c'est une exposition au sens littéral. Et bah, pour d'autres, c'est pas valable, quoi. Ça les expose, ça les met en danger, sans doute, enfin, c'est ce qu'ils pensent. Mais malheureusement, je pense aussi très souvent, c'est parce qu'ils ont, ils ont pas grand chose à dire, en fait, quoi. Donc, c'est des. Ouais.
Dans le livre, tu dis un truc qui m'a frappée sur le fait que dans ta vie privée, t'es quelqu'un qui a du mal parfois à dire les choses. Et à l'inverse, dans ton action publique, quand on t'entend ou quand on te voit à la télévision, on a le sentiment que t'es quelqu'un très loin de la timidité, qui ose beaucoup et qui n'a pas peur du tout. Est-ce que la parole publique et la parole intime ou personnelle, c'est deux paroles qui sont complètement dissociées ?
Ouais, complètement. C'est-à-dire que je suis très souvent... dans une parole alors personnelle qui est pas seulement celle avec l'entourage même si également mais qui est celle du rapport humain personnalisé que je peux avoir si je suis dans une boulangerie et si je demande un pain au chocolat et qu'on me sert un pain au raisin je vais pas oser le dire en fait de faire naître le conflit mais très compliqué et dans le livre je raconte sur l'avion c'est-à-dire quand il m'arrive de le prendre il y a ce moment où le passager de devant va lui allonger rabattre son siège que moi je vais me retrouver un petit peu coincé et moi je n'ose pas faire de même c'est-à-dire que c'est vraiment un moment de terreur je ne sais pas à quel moment je peux le faire et en même temps il faut le faire parce que du coup j'ai plus de place du tout et que je trouve un moment extrêmement violent parce que souvent les gens ne se parlent pas, disent pas excusez-moi, je vais faire ça c'est un mécanisme, t'es censé pouvoir le faire et oui ça me fait très très peur mais c'est permanent c'est ce qui inhibe vraiment complètement ma parole pour le coup.
Mais alors comment ça se fait que ça s'exprime pas du tout dans ta vie publique, dans ton métier?
Mais parce que j'ai pas l'impression d'atteindre les gens. Enfin, que pour moi, c'est pas je vais pas leur faire de la peine. Parfois, j'essaye d'y réfléchir en me disant bah oui, mais quand même, la personne, quand tu l'attaques, ça peut avoir des conséquences dans sa vie. Mais pour moi, c'est politique. C'est pas un truc que j'attaque la personne. C'est d'ailleurs, je fais attention, je pense aussi, quand même, de pas trop cibler une personne humaine, même si bien sûr, ça peut avoir des. En tout cas, c'est toujours une interrogation. Je me pose vraiment la question de. Ah, comment on fait pour pas directement impacter, même ridiculiser les gens, parce qu'il y a aussi toute la parole, c'est de l'écrit, mais c'est de la parole publique aussi sur les réseaux sociaux, de pas être dans l'humiliation, et pourtant, franchement, parfois, j'ai vraiment envie. Je me dis, mais franchement, quand il y a des gens qui, eux, n'hésitent pas à m'attaquer, j'ai envie de les égrabouiller, et c'est facile, et je pourrais vraiment les ridiculiser, et c'est pas, je sais pas, c'est toujours une réflexion là-dessus, et que j'ai l'impression que quand c'est un discours politique, c'est beaucoup plus simple, parce que je parle de système, je parle de structure, et là, ça me pose beaucoup moins de problèmes.
Donc, par exemple, quand t'appelles à la démission de Christophe Girard, est-ce que tu penses à Christophe Girard ou est-ce que tu penses à ce qu'il représente en tant qu'élu de la République, en tant que personnalité publique? C'est pas lui, c'est un système.
Non, mais Christophe Girard, c'est un très bon exemple, parce que la première fois, après avoir beaucoup essayé en interne hein, d'obtenir qu'il ne soit pas adjoint à la culture, donc sans passer par une attaque justement publique, hein, après en avoir discuté vraiment avec les représentants de la mairie de Paris pour pas que ça arrive, et en disant « moi, je vais devoir le sortir publiquement si vous n'agissez pas ». Et ça, c'est des semaines que je disais ça. Et la première fois que je le fais, c'est par un fil Twitter, et je ne le nomme pas. Et c'est tout à fait volontaire, c'est-à-dire que je veux pas qu'il y ait... Ce n'est pas Christophe Girard la personne qui m'intéresse, c'est cette fonction qui va être confiée par un pouvoir politique à quelqu'un qui a eu des liens avec Gabriel Matzneff. À ce moment-là, c'est vraiment ça, et c'est très volontaire que je ne le nomme pas, parce que je sais aussi ce que ça provoque, par ailleurs, sur les réseaux sociaux, si on pointe quelqu'un.
Pour lui, tu veux dire ? ce que ça provoque pour lui ?
Ouais, ce que ça provoque de manière générale et en l'occurrence pour lui. Et encore une fois, parce que c'est pas sa personne qui m'intéresse. Et je nomme même pas Anne Hidalgo. Je dis la mairie de Paris. Je prends la structure. C'est vraiment, c'est, je pense, que c'est très important, notamment dans la sphère politique où c'est quand même assez violent de pas, quand c'est pas nécessaire, de ne pas personnaliser les choses. Et c'est à l'inverse que les élus socialistes ou ne se sont pas privés de faire, de personnaliser, de cibler quelqu'un, c'est particulièrement problématique. Et je pense qu'il y a une éthique à avoir de la parole publique politique pour faire attention justement de pas, quand ce n'est pas nécessaire, de ne pas personnaliser, de rester dans du politique. Et je pense que c'est vraiment ça. Et quand la maire de Paris a fait ça avec Raphaël Rémy-Leleu et moi, quand les élus socialistes ont balancé justement des vidéos tronquées en disant effrayant, donc c'est même plus avec mon nom, c'est avec ma tête, sur un discours qui était celui du groupe écologiste de manière générale, qui n'était pas évidemment, je portais ce combat-là, mais qui était un problème politique, et d'aller le personnaliser, je crois que c'est vraiment à éviter quand on peut l'éviter. Et c'est pour ça que, bah, oui, effectivement, moi, j'ai pas nommé Christophe Girard. J'essaye vraiment, même dans les réunions, en fait, de pas dire, ça me gêne de dire, quand je suis en réunion politique, de dire un nom, de dire vous, machine, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Et je préfère parler de la structure qui est représentée par cette personne-là, parce que, en plus, surtout dans les représentations publiques, j'en sais rien. Ces gens-là, je ne les connais pas, finalement. Je ne sais pas qui elles sont, donc ce qui est en cause, c'est la façon dont ils incarnent la fonction qui leur est dévolue. C'est pas autre chose, quoi.
Alice Coffin est l'autrice du Génie lesbien, essai publié chez Grasset, et vous pourrez retrouver d'autres morceaux de cette interview en exclusivité en vous abonnant au Club Louis, louismedia.com/club. Je vous invite aussi à aller écouter tous les autres podcasts de Louis, notamment Émotion, Travail en cours et le Book Club, et à nous suivre sur les réseaux sociaux ou à nous écrire à Chapullo sur Instagram ou hello@louismedia.com. Cet épisode de Fracas a été réalisé et mixé par Sullivan Clabot. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. À très vite.
Bonjour, je suis Marine Revol et je présente Fête des Gosses, le podcast de Louis Média qui vous aide à traverser la jungle de la parentalité. Dans Fête des Gosses, je démêle notamment le vrai du faux de l'éducation positive ou de la chasse aux écrans. Et je me demande par exemple, comment ne pas refiler nos casseroles et nos traumas à nos enfants. Vous y entendrez des sociologues, des psys, des philosophes et des parents. Et la nouveauté cette saison, c'est que je donnerai de plus en plus la parole aux enfants. Fête des Gosses est dispo partout. Bonne écoute.